Bonjour et bienvenue dans le podcast À la découverte de soi de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Les versets sont écrits. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Mais s'il y a une chose que tu sais que tu n'as pas, c'est la paix. La scène que je décris, je la connais que trop bien. Ce qui m'a dérangé avec l'histoire de Gédéon, c'est pas ce que Gédéon dit. Parce que ça, c'est ce que nous disons. C'est ce que j'ai dit à Dieu encore récemment. J'ai dit à Dieu, où est la puissance? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aspire à un christianisme de puissance.
Amen.
On l'a dit dans cette maison encore et encore, je crois au miracle. Mais ça ne peut pas rester un slogan. Moi, je ne veux pas du type de miracle qui peuvent être attribués à un homme. Je ne veux pas du type de miracle que quelqu'un peut avoir avec le piston. Je veux que Dieu se démontre de telle sorte qu'on dise que j'ai touché à quelque chose. Je veux que mon succès soit suspect. Je veux que quand Dieu me bénit, les gens disent je suis rentré dans la loge. Parce que pour eux, la loge, c'est l'endroit de la puissance. Je suis dérangé. Si je peux vous parler à cœur ouvert, votre christianisme ne me donne pas envie. Cœur ouvert. Parce que dimanche, vous êtes à l'église. Vous donnez, payez la dîme, vous donnez l'offrande. Vous faites tout ce que vous faites. Mais vous n'y croyez tellement pas que lundi, vous cherchez un autre moyen d'avancer dans la vie. La prière ne suffit plus pour vous. Vous faites des mélanges. Là, je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Vous faites des mélanges. La prière ne suffit plus. Écoutez, moi, je suis instruit. Je suis allé à l'école. Pour ce que je fais, j'ai étudié. Et à cause de ma culture générale, je comprends bien que Dieu nous a créés tripartites. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et que l'une des choses qu'on nourrit régulièrement à l'église, c'est l'esprit. Mais sauf que ma Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère, pas de ton esprit. Ouais. Ça veut dire que la prospérité est une affaire d'âme, pas d'esprit. Qu'est-ce que tu dis, évêque? C'est possible d'être quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui stagne dans la vie. Parce que l'évolution dans la vie ne répond pas simplement à la prière. L'évolution dans la vie répond à des lois que ton âme doit intégrer. L'âme est le siège de l'émotion, de la volonté et de l'intelligence. Donc je comprends tout ce qui est lié à la psychologie de l'âme. Je comprends que certaines personnes, à cause de leur personnalité, ont du mal avec certaines réalités. Mais s'il y a une chose qui me dérange, c'est que je refuse de croire que lorsque tu as un problème de l'âme, que Dieu ne soit pas capable d'intervenir. Je refuse de croire que tu dois devenir accro à un médicament pour dormir. Où est la puissance? L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, mais où le trouve-t-il? Il me reste quelques minutes. On va prier. Dans le temple, non. En prière sur la montagne, non. Gédéon n'est pas dans une assemblée qui loue. Gédéon est caché dans un pressoir en train de battre du blé en secret pour que les Madianites ne le voient pas. Ça veut dire que toi, un grand comme toi, une grande comme toi, tu dois maintenant te cacher pour vivre. Je sais que vous ne dites pas la vérité parce qu'on est au culte, mais il y a des gens, vous vous cachez pour vivre. L'une des choses qui me dérange dans la vie, c'est qu'on croit davantage en la sorcellerie qu'au prophétique. On croit davantage en la malédiction qu'en la bénédiction. Pourquoi tu n'annonces pas quand tu voyages? Réponds-moi. Pourquoi tu ne nous dis pas quand tu pars? Parce que toi-même, tu sais que si tu dis, il y a quelqu'un qui peut bloquer ton voyage. Pourquoi vous faites comme si je mentais? Tu ne nous dis pas quand tu voyages. Tu as même créé un adage. Celui qui veut vivre bien. Tu as même un autre adage pour l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. Qu'est-ce qui aime le bruit? La pauvreté. Il a dit que maintenant, quand tu voyages, tu ne fais... Sui. Il y en a d'autres, ils voyagent, ils annoncent. Ils sont dans l'avion, ils filment. Ils atterrissent. Ils vont dans le magasin, ils filment. Tout filmé. Et puis, il n'y a aucun sorcier qui arrive à les bloquer. Mais toi, malgré le fait que tu sois caché, dès qu'il y a un petit problème, hey, je savais, les sorciers du village, les sorciers de ma famille sont contre moi. Je suis en train d'aller au CEDOC. Je suis en train d'aller dans une administration il y a quelques jours. Et pendant que je suis en chemin, je suis en train de marcher avec la famille. Il y a une dame qui me reconnaît. Homme de Dieu. Donc, elle m'a passé. Elle revient. Bonjour, homme de Dieu. Je dis bonjour. Homme de Dieu, j'ai besoin d'une prière. Je ne la connais pas. Elle me connaît certainement à cause des réseaux sociaux. Et je lui dis, ok. Je suis en bordure de route. Je dis maintenant. Elle me dit oui. Je dis d'accord. Quel est votre sujet? Homme de Dieu, il faut prier. Attendez. Ça n'a pas encore commencé. Homme de Dieu, priez. Je dis d'accord, je prie pourquoi? Priez pour qu'il m'épouse. Attendez. J'ai dit qui? Elle dit non, je suis avec un homme, ça fait tant de temps. Puis depuis là, il ne se décide pas. Priez pour qu'il m'épouse. La première question que je me pose, c'est tu l'as choisi comment? Parce que le problème que nous avons, il y a deux extrêmes. Voir le diable partout, croire que le diable n'est nulle part. L'équilibre, c'est reconnaître quand la main du diable est derrière, mais en même temps savoir quand le cœur de l'homme est fermé. Et donc, je vois qu'elle est dans un combat, peut-être qu'elle ne va pas gagner. Je n'ai pas le temps de l'enseigner, je n'ai pas le temps. Prophétiquement, mes yeux s'ouvrent, je veux lui parler, mais non, je n'ai pas le temps. Donc, je lui dis juste, ok, prions, je m'associe à sa foi, je dis, Seigneur, incline le cœur de cet homme en sa faveur. Elle dit amen. Je souris. Quand elle part, moi je sais qu'il y a très peu de chances qu'elle soit exaucée. Pourquoi? Parce que j'ai fait un peu ce qu'on appelle une prière tampon. Okay. J'ai prié. Pas parce que je sais que ça va arriver, mais parce que pour calmer son âme, elle avait besoin de la prière. Et c'est ça que moi je refuse. Je refuse de vivre une vie où la prière est un calmant. Où on vient à l'église, le culte était bien, ça t'a calmé, ça ne change pas ta vie. Tu repars faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes démons. Et tu es toujours sans puissance. Le message était bien, le culte était bien, l'homme de Dieu, la femme de Dieu a bien prêché. Qu'est-ce que ça change à ma vie? La louange était bien, tu as pleuré. On dit que les femmes aiment pleurer. Tu as pleuré. Les larmes ont coulé, le rhume s'est manifesté. L'eau est sortie. Au final, tu pars. Hey, Seigneur, merci. Mais est-ce que ça va changer ton quotidien? Qu'est-ce que ça va changer chez toi, à la maison? À cause du temps. Gédéon, on le trouve dans un pressoir en train de battre le froment. Et là, l'ange de l'Éternel lui parle, mais en totale opposition avec sa réalité. L'ange de l'Éternel lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est un peu comme si il y a un cambrioleur dans une maison. Le propriétaire est caché sous le lit à cause du cambrioleur. Et puis Dieu lui apparaît sous le lit pour dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est-à-dire que ce n'est pas logique d'appeler un vaillant héros quelqu'un qui se cache face à l'adversité. Normalement, dans notre esprit, le héros est celui qui fonce, qui sauve. Mais Dieu définit le héros pas d'abord sur ce qu'il fait, mais sur qui il est. Ça veut dire que tu peux ne pas encore faire ce que tu dois faire, mais tu es déjà qui tu dois être. Le changement ne vient donc pas d'abord sur la base de ce que tu fais, mais sur la réalisation de ton identité. Qui es-tu? Trois phrases que je veux vous donner rapidement. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a jamais possédé. Vous devez m'entendre. Je veux prier pour quelques personnes, parce que je ne peux pas terminer ce culte sans démonstration de puissance. Vous ne pourrez jamais donner ce que vous n'avez pas possédé. Mettez Deutéronome 29, 29. Je crois que c'est le texte. Rapidement, ce n'est pas dans mes notes. Je veux vous montrer quelque chose. Je veux montrer ça à quelqu'un. Je prie Dieu que ça t'ouvre l'esprit. Lisons 1, 2, 3, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'une chose est cachée, elle appartient à Dieu. Mais si Dieu te révèle quelque chose, c'est qu'il te la donne. Aide-moi. Ça veut dire que Dieu ne vous donne pas la chose sans d'abord vous donner la révélation de la chose. Vous ne pourrez pas avoir ce dont vous n'avez pas la révélation. Maintenant, quand Dieu te donne, ce n'est jamais seulement pour toi. Dieu te donne pour que toi, tu puisses donner à tes enfants. Dieu n'a donc pas le projet de donner à tes enfants d'abord. Tu vas m'aider. Ça veut dire que Dieu ne veut pas te sauter. Dieu veut te donner à toi pour que toi maintenant tu donnes à tes enfants. En fait, Dieu veut te donner quelque chose qui va devenir un héritage familial que tu pourras transmettre. Mais cette chose-là, tu dois d'abord en avoir la révélation. Est-ce que vous avez remarqué que dans certaines familles, la musique va de père en fils, de mère en fille? Le commerce va de père en fils, de mère en fille. Il y a des choses qui sont comme des héritages. Okay? Donc maintenant, mon problème, c'est que dans certaines de nos familles, il y a des choses qui, au lieu d'être des héritages positifs, sont négatifs. Dieu te suscite dans la famille pour que tu brises le cycle et qu'à partir de toi, une nouvelle lignée commence qui n'aura pas les mêmes problèmes que ceux que tes aïeux avant toi ont eu. En d'autres termes, si toi, tu t'es battu à ouvrir une porte, tes enfants normalement ne devraient plus avoir à se battre. La porte étant ouverte, eux, ils doivent simplement rentrer. Lève ta main droite, répète après moi. Dis mon père, mon père. Je prie ce matin afin que tu me donnes la révélation des choses que tu veux que je possède cette année 2026. Je refuse de vivre ma vie sur les témoignages d'hier. Oh Dieu, cette année, fais quelque chose de nouveau. Ouvre ta bouche et prie pendant 10 secondes. Tu as 10 secondes. Amen. La deuxième chose que je veux dire, vous ne pouvez pas vivre seulement de l'héritage spirituel de vos parents. Vous devez avoir votre propre rencontre. Gédéon est capable de dire, mes pères, nos pères nous ont parlé des miracles, mais où sont les signes, où sont les prodiges? Gloire à Dieu pour nous qui avons eu des mères intercesseuses. Gloire à Dieu pour toi qui as eu quelqu'un qui t'a porté dans la prière. Mais écoute-moi bien, sa prière ne suffit pas pour les combats qui sont les tiens aujourd'hui. Ta maman, ton père, quelqu'un t'a porté, mais toi-même, tu dois avoir ta vie de prière. Et celui qu'on a porté doit devenir celui qui porte. De la même manière que quelqu'un t'a porté, toi tu dois porter ton enfant, tu dois porter tes neveux, tu dois porter tes petits-enfants. Troisièmement, la puissance n'est pas un souvenir à commémorer. C'est une réalité à expérimenter. 1 Corinthiens 4:20, la Bible dit ceci, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Matthieu 6:33, qui est l'un de nos textes de base de ce mois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire que normalement, Dieu te demande de chercher le royaume, qui ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et quand tu trouves le royaume, le reste est ajouté. Le royaume, j'ai écrit dans mes notes, est une façon de vivre, pas juste une façon de prier. On va prier vendredi. Et ce vendredi, ça va être particulier. Je pense que c'est l'une des nuits des révoltés où, très très fortement dans mon esprit, j'ai des directives. Et nous allons aussi avoir la présence de notre Père, l'évêque général. Donc ça va être une veillée particulière. Ça va être vraiment un moment intense. Mais on ne peut pas prier avec autant de ferveur et ne pas avoir de résultats. Moi, j'aime prier là. Sauf qu'après, si la vie ne change pas, c'est le bruit. Et il y a des gens qui ne prient pas comme nous. Ils prient, Seigneur, merci. Et eux, leur vie change. C'est là où tu te dis que, à un moment, Dieu n'exauce pas les mots. C'est pas le bruit. Nous, c'est l'âme, on aime Ita, Mata, Lepa, Sata, Yeka, Tala, Pata, Sata. Mais si après ça, il n'y a pas de changement, c'est le sport que tu as fait, c'est juste le sport. Normalement, il faut qu'il y ait des résultats. Menace quelqu'un à côté de toi, dis-lui ta vie de prière doit produire des résultats. À cause du temps, parce que je veux pouvoir prier. Je terminerai mon message certainement au deuxième culte. C'est pas grave. Je veux pouvoir prier. Vous voyez, quand j'ai commencé mes propos et je me suis identifié à vous, parce que je suis dans la même situation et que j'ai dit où est la puissance en parlant à Dieu. Comme pour dire à Dieu, Seigneur, où es-tu ? Jusqu'à quand? Le cœur de mon message, c'est que Dieu m'a répondu et Dieu m'a dit à moi, Michel, où est la puissance? Ça veut dire que pour Dieu, le problème n'est pas de son côté. L'absence de puissance dans ta vie n'est pas due à un manque de puissance de Dieu ou à une volonté à ne pas se manifester dans ta vie. L'absence de puissance dans ta vie, c'est que tu es un isolant. Ça veut dire que le courant arrive jusqu'à toi et puis c'est bloqué. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu sans la présence du roi. Ce qu'on veut, c'est traiter Dieu comme un distributeur automatique. On met une pièce, il nous donne la puissance, il nous donne le travail, il nous donne le mariage, il nous donne la bénédiction. Mais on ne veut pas d'intimité avec lui. Sans intimité, il n'y a pas de puissance. Maintenant, à quoi ressemble une vie intime avec Dieu? À quoi ressemble ou à qui ressemble un intime de Dieu? Est-ce que ça vous intéresse? Je vois que vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, j'arrête, je vous libère. À qui ressemble un intime de Dieu? L'un des exemples les plus parlants, c'est Abraham. Ils ont marché ensemble depuis 25 ans. À 100 ans, Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à Abraham. Là, on peut se dire, Dieu a manifesté sa puissance. Isaac est né d'une femme stérile et qui a dépassé la ménopause. Abraham a 100 ans, Sarah même va loin. Est-ce que mon chef aura encore des désirs pour moi? Quand Isaac naît, mon Dieu, quel témoignage! Maintenant, Dieu attend qu'Isaac grandisse. À peu près 17, 19, en tout cas autour de cet âge, Dieu vient maintenant voir Abraham à nouveau et lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham ne discute pas. Abraham ne chipote pas. Abraham dit oui, se lève, 3 jours de marche, marche avec le seul enfant qu'il a, prêt à aller le sacrifier, parce que celui qui le lui a donné, le lui redemande. Lorsqu'Abraham met Isaac sur l'autel, ou lorsqu'Isaac se met sur l'autel, et qu'Abraham lève le couteau pour le sacrifier, j'entends Dieu lui dire, ne touche pas à l'enfant maintenant, dites maintenant. Maintenant, je sais que tu me crains. Ça veut dire qu'après 25 ans de marche avec toi, il a fallu que tu me testes avec ce que tu m'as donné, pour pouvoir déterminer que maintenant, tu sais. Alors le problème, mes amis, c'est que vous ne comprenez pas qu'en fait, Abraham, Dieu ne lui a jamais promis seulement un enfant. Dieu lui a promis de devenir le père d'une multitude de nations. Il change son nom d'Abraham en Abraham, parce qu'il veut faire de lui plus qu'un père élevé, il veut faire de lui le père d'une multitude. Donc Isaac n'est pas l'accomplissement de la promesse. Isaac est les prémices. Vous allez m'entendre. Ça veut dire que Isaac n'est pas la masse. Isaac n'est pas l'accomplissement de la promesse. Isaac ressemble à ton travail. Isaac ressemble à cette première voiture. Isaac ressemble à ce premier revenu que tu attendais. Isaac ressemble à cette première entrée financière due à ton entreprise. Mais le problème, c'est que la puissance ne se trouve pas. Écoutez-moi bien. La puissance que tu attends, c'est que tu veux avoir la multitude. Mais Dieu te dit, si toi et moi on doit dealer ensemble, redonne-moi ce que je t'ai donné. Pourquoi? Pas d'intimité sans sacrifice. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu ne peut pas te demander? Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, si Dieu te le demande, tu vas lui dire non? Vous dites non, évêque, il n'y a rien dans ma vie que Dieu me demande que je ne peux pas lui donner. Maintenant, allons un peu plus loin. Qu'est-ce que Dieu t'a donné qu'il te redemande, mais tu prends sa voix pour la voix du diable? Parce que tu te dis, si c'est Dieu qui m'a donné, ça ne peut pas être Dieu qui me le redemande. Tu veux la puissance? Tu vas devoir te sacrifier. Pour certains d'entre vous, même quand on parle de prémices, ça ne vous fait rien. Parce que votre cœur n'est pas attaché à l'argent. Vous n'avez aucun problème à vous séparer du matériel. Tout de suite, Dieu te dit, donne-moi la voiture. Tu dis, Seigneur, voici les clés. Tout de suite, Dieu te dit, donne-moi la maison. Tu dis, Seigneur, voici les clés. Je vais prêcher à Mwanda. Je vais prêcher à Mwanda. Pendant que je suis en train de prêcher comme ce matin, Je parle, je prie pour les gens. À la fin du culte, une dame vient me voir par l'entremise donc de l'évêque François, à l'époque révérend. L'évêque François me dit, il y a une dame qui veut te voir. J'ai demandé de venir. Il l'a fait rentrer dans le bureau. Elle se met à genoux et dit, évêque, bon, révérend à l'époque, pendant que tu étais en train de prêcher, Dieu a mis dans mon cœur la conviction de te donner ma maison. Je la regarde. Alors, la maison, c'est un terrain super grand. Et il y a des locataires déjà dans la maison. Donc, quand elle me donne la maison, parce qu'on a fait les papiers et tout, quand elle me donne la maison, je passe de locataire à Libreville à propriétaire à Mwanda. Avec des locataires. Dites ça, c'est Dieu. Tu vois, tu ne dis pas ça, c'est Dieu, parce que ce n'est pas ton témoignage. C'est la jalousie, c'est le mauvais cœur qui fait que tu ne veux même pas reconnaître que c'est Dieu. Si tout de suite, quelqu'un te donne une maison avec locataire, tu vas dire que c'est Satan. Donc, elle donne. Elle dit, témoignage, donc j'appelle mon époux, je lui dis et tout. Bon, elle est contente, témoignage. Je reviens, je suis maintenant propriétaire. Et le verset me revient, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Donc je sais que c'est Dieu. Et puis on est à un séminaire, un programme, un peu comme les séminaires qu'on a. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé, il est évêque. Et puis il parle. Puis après un moment, il dit, va appeler les gens à faire alliance avec Dieu et puis alliance avec son serviteur. Et donc il dit, pour l'alliance, donner quelque chose de valeur. Quelque chose de valeur, il insiste, de valeur. Ok. Je réfléchis une fois, je réfléchis deux fois, je prie, je n'ai rien, j'ai pas de somme dans mes mains, puis l'argent c'est pas un problème. Et donc là, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était parti parler à la dame, le même Saint-Esprit vient me voir et il me dit, donne la maison. Alors je vérifie que c'est pas Satan. Donc j'appelle mon épouse, on parle, elle me dit, je lui dis, bon, tu sais, la première maison, la seule maison dont on est propriétaire, Dieu vient de me dire de la donner. Elle dit, c'est ce que j'allais te dire. Dans mon cœur, je dis, c'est normal, parce que ce n'était pas ta maison, c'est-à-dire que c'est normal que tu allais me dire ça. Non, parce que tu ne sais pas. Écoutez, attendez. Non, mais là, je ne parle pas de toi, je parle de mon cœur. Pourquoi toi tu parles? Je parle de mon cœur. Donc, dans mon cœur à moi, maintenant suivez-moi. Parce que vous savez, imagine quelqu'un à côté de toi te dit, Dieu m'a dit de te dire, de donner ta voiture. Ce n'est pas la même chose que quand Dieu te dit à toi-même, donne ta voiture. Parce qu'elle, elle était à la fin du miracle, elle n'était pas là au début, elle ne sait pas comment j'ai prêché. Comment j'ai transpiré, la révélation qui est sortie, l'onction qui est tombée, elle sait simplement que je lui ai dit on a la maison, ok, gloire à Dieu. Maintenant elle sait aussi que Dieu lui dit donne la maison, elle dit ok, gloire à Dieu. Donc on donne, et donc au moment où je donne, écoutez-moi bien, la seule raison qui permet à ce moment-là que ma foi ne soit pas ébranlée, parce que je donne. Et normalement, quand je donne, parce que c'est écrit dans vos Bibles, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Donc, je donne la maison. Normalement, moi, je m'attends la semaine qui doit suivre qu'on m'appelle. Révérend, Dieu m'a mis à cœur de te donner un immeuble. Vous savez ce qui s'est passé? On est en quelle année? En 2000. L'évêque était venu, l'évêque Denis Bakouma. 2018-2017. On est en 2026. Suivez-moi. Ça fait 8 ans. Non, attendez, autant que je vous parle. Ça fait 8 ans que j'ai donné ma maison. Première maison. Et que depuis, il n'y a rien eu. Mais moi, je suis de ceux qui savent que ce n'est pas possible de donner à Dieu et de perdre. La vérité, c'est que je sais que ça arrive. Le seul problème, c'est que pendant l'attente, je ne dois pas utiliser ma bouche pour déraciner la semence que je viens de mettre en terre. je ne dois pas avec ma bouche dire des choses qui annulent l'aspect spirituel du sacrifice que je viens de faire. Ça veut dire que quand tu donnes à Dieu, oublie. Laisse la semence mourir. Et permets que la semence germe. Ne va pas regarder tout le temps. Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? Tu es en train de bloquer la croissance. Maintenant, 8 ans. Toi, ça fait même pas 8 jours. Même pas 8 semaines. Tu commences à te plaindre. Quelqu'un m'a dit, depuis que je viens à l'église et que je paye ma dîme, je ne vois rien. Mais tu donnes ta dîme fidèlement depuis quand? Nous, ça fait, moi, c'est depuis 1998. Je paye ma dîme, je suis en seconde. Quand je commence à payer ma dîme. On est en 2026, ça va faire 30 ans dans 2 ans. Toi, tu n'as même pas fait un mois de fidélité. Et c'est toi qui dis, où est la puissance? Et Dieu te regarde et il te dit, où est le sacrifice? Où est la puissance de ton sacrifice? Où est la puissance de ta constance? De ta fidélité?
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.